Et top chrono.
15 minutes, les gars.
Le quiz.
15 minutes, les gars.
Le quiz.
Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes, les gars.
Le quiz.
15 minutes, les gars.
Le quiz.
Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus.
Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, mais en plus court, c'est 15 minutes, les gars.
Oh, c'est bien résumé, ça.
Ah ouais.
J'aime bien, pas de
merci.
Joker, pas de...
Non.
Pas de question twist, rien non. Du tout. Première question, c'est à vous.
Vous avez pas dit quiz.
J'ai dit quiz.
Merci.
Pardon.
Vous avez forcément déjà entendu parler du Machu Picchu.
Oui.
Eh, mais pouvez-vous nous dire dans quel pays se trouve cette ancienne cité Inca?
Ah, vous commencez comme ça, vous.
Ah ouais.
Ah ouais, d'accord.
Vous auriez su?
Oui.
C'est vrai?
Bah, j'ai fait des études d'histoire, monsieur.
Vous savez super, bien ça, le passionne. Mec, vous saviez même pas la traversée des Alpes.
C'est vrai.
En cochon d'Inde.
Ouais. En cochon d'Inde. Vous savez comment on dit cochon d'Inde en brésilien ou en portugais?
Non.
Porquinho de Inja.
Alors, c'est le Pérou.
Merci.
Le Machu Picchu, qui littéralement veut dire vieille ou vieux sommet.
Ah, ok.
Et c'est de la langue quechua, hein. Faut pas, pas croire que ce ne sont que des tentes, hein.
Ouais.
La langue quechua, c'est une langue des quechua, hein, qui sont une population qui est regroupée un petit peu dans toute l'Amérique du Sud.
D'accord.
Et centrale, je crois.
Très bien.
Et donc, c'est une
merci.
Ancienne cité inca du 15e siècle au Pérou.
C'est fou, ça.
Perché sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu,
pas mal.
Le jeune pic en quechua, sur le versant oriental des Andes centrales. Son nom aurait été Picchu ou Picchu. Voilà. Considérée comme une œuvre maîtresse de l'architecture des Incas, elle est peu à peu abandonnée après l'effondrement de l'Empire Inca au XVIe siècle, puis méconnue durant des siècles en dehors de la population locale. Cela lui a conféré une réputation de cité oubliée. Machu Picchu fut exploré en 1911 par l'archéologue américain Hiram Bingham, professeur assistant d'histoire de l'Amérique latine à l'université Yale, qui la fit connaître dans un ouvrage de référence. Le site est généralement considéré comme une des résidences de l'empereur inca Pachacutec.
Oui.
Ouais, Pachacutec. Ouais. Quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie d'accès au Yakta évoque un sanctuaire religieux. En revanche, les experts ont écarté l'idée d'un ouvrage militaire.
Okay.
Au centre d'un ensemble culturel et naturel connu sous le nom de sanctuaire historique du Machu Picchu, le site est depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et depuis le 21e siècle,
oui.
Une des destinations touristiques les plus visitées de la planète, suscitant des mesures de régulation du surtourisme.
Ouais, en plus, c'est pas facile pour y aller, je crois. Il y a des heures et des heures de bus.
Ah bah,
et
c'est
ça.
Super haut.
Ah ouais, ouais.
Effectivement, les mecs, c'était un petit peu fait chier. Hein.
Bah ouais, grave. Ce qui est dingue, moi, c'est que ça ne date que du 15e siècle.
Oui.
Ouais,
et en plus, après, les Incas ont disparu à une vitesse folle.
Bah,
on sait pas encore tout à fait comment les mecs ils se sont volatilisés. Quoi.
Ok. Ouais, non, c'est fou. L'histoire est assez folle. Il y a toujours un peu de mystère là derrière. Et merci à cette professeur assistant d'histoire.
Ouais.
Indiana Jones.
Hiram Bingham qui, tiens, je vais aller là-bas. Oh purée.
C'est ça. Bon, allez, question numéro 2. Quand on est fan de vexillophilie, qu'est-ce qu'on collectionne?
Alors, je dirais, oui. Quand on est vexillophile plutôt.
Vexillophile. Vexillologue. Je sais pas trop. La vexillophilie. Pas facile. Au moins, vous aurez appris quelque chose. Si vous avez la réponse, bravo.
Bah
ça,
oui.
C'est sûr. La vexillophilie est le nom donné à la collection de drapeaux, d'étendards et de pavillons.
D'accord,
voilà.
Ok.
La Fédération internationale des associations vexillologiques, la FIAV, bien sûr.
Bien sûr.
Regroupe actuellement 51 associations régionales, nationales et internationales. Alors, la vexillologie de vexillum, nom de l'étendard dans les armées romaines,
okay.
Et l'étude des drapeaux et pavillons.
Ah.
C'est un peu ce que faisait Sheldon.
Ah oui,
Sheldon,
j'allais vous dire.
Ah oui. Fun with flags.
Voilà, le podcast.
Vexillologie, voilà. Vexillophilie. Comme
mais
ça, vous le savez.
Oui, alors, ils collectionnent les drapeaux.
Alors, les vexillophiles, oui, et les vexillologues, ceux qui font de la vexillologie, eux, étudient les drapeaux.
Comme Sheldon.
Voilà, exactement.
Okay.
Ok. On va rester avec les drapeaux.
Ouais,
pour la troisième question.
Les drapeaux. Les drapeaux.
Et la vexillologie. Les drapeaux. Je l'avais pas eu, mais... Elle est bien. La vexillologie, direction la Bretagne et le fameux Guenadu, bien sûr, qu'on voit partout en manif dans les...
Le Guenadu?
Le Guenadu, connaissez
non,
pas
non, je connais
c'est le nom du drapeau
Guenadu.
Breton.
D'accord.
Voilà. Le Xanadu, connaissez le
ouais,
Xanadu?
Moi aussi, je connais
le
Xanadu.
Oui,
ouais.
Bien sûr. Donc le Guenadu, qu'on voit partout en manif, dans les stades, dans les festivals, il y en a partout. Oh! Oh, j'ai renversé de l'eau.
Oh, l'erreur. Bah, j'ai rien, tu veux un slip?
Non, attends.
Mais vite.
Merci. ben voilà. Après une petite pause de nettoyage, vous voyez ce que ça me fait le drapeau breton ? Voilà, ouais. ça me rend fou, ça me rend complètement fou. Mais saviez-vous que ce drapeau s'est librement inspiré du drapeau d'un pays ? Mais de quel pays ?
Ah !
Les Bretons ! Avec de la flotte partout. Bah, en même temps, ils s'y connaissent en flotte. Allez, ça, c'est gratos.
Ouais, non, mais non, il y a l'océan. Je veux dire,
oui, mais je, là, je
oui, parle, j'ai bien compris que vous parliez de la météo, mais.
Après, ils disent que. Les Bretons disent qu'ils pleuvent que sur les cons. J'ai quand même l'impression de passer pour un con à chaque fois que je passe en Bretagne, quand même. Bon, allez, elle était bonne celle-là, hein. Regarde.
Allez.
Bon, la réponse, c'est les États-Unis.
C'est vrai ?
Le Stars and Stripes.
Oui.
Voilà.
Stars and Stripes.
Créé par Morvan Marshall, un architecte et militant nationaliste breton entre 1923 et 1925. Donc, c'est pas si vieux.
Ah oui, non, il a pas vécu 2 ans, le gars.
Non, non.
Ok. Il a créé ce voilà. drapeau en 2 ans, en par contre. Ans.
L'homme s'est inspiré de la bannière étoilée du drapeau des États-Unis. Certains disent que ça viendrait également du blason de Rennes, mais bon, ça, je n'y crois pas du tout.
Ah bon.
En tous les cas, suite à la guerre 14-18, où la Bretagne a subi de plein fouet la guerre mondiale, le nationaliste a souhaité obtenir un drapeau représentant la Bretagne. Il faudra attendre 1927 pour que le Guenadu devienne le drapeau officiel de la Bretagne. Pendant près de 30 ans, il sera interdit par les autorités françaises car il est considéré comme séditieux et autonomiste.
Mm-hmm.
Voilà, comme ça vous le savez.
Ouais.
Et c'est à partir des années 60-70 que l'interdiction se lèvera et qu'il pourra être hissé sans aucun problème pour aujourd'hui être présent dans certaines mairies, administrations, conseils régionaux, conseils généraux, mais aussi lors des festivals,
oui,
des manifestations.
Oui,
dans les
vrai.
Stades, partout, il y en a partout du Guenadu. Ouais. Le Guenadu est composé de 9 bandes horizontales, noires et blanches, d'égale largeur et de 11 mouchetures d'hermine.
Ok. Voilà.
Les 5 bandes noires représentent la Haute-Bretagne, c'est-à-dire le Pays Rennais, Nantais, Dolois, Malouin et Penthièvre. Okay. Les 4 bandes blanches représentent la Basse-Bretagne pour les comtés de Léon, Trégor, Cornouailles et les pays Vannetais. Ces 9 bandes symbolisent les 9 provinces historiques de la Bretagne. Voilà, comme ça vous savez tout.
Ok.
Donc il y a quand même un petit peu de ça représente la Bretagne.
D'accord.
Voilà.
Merci, oui, c'est un peu le principe, oui,
oui
d'accord.
C'est vrai, c'est vrai.
M'engueulez pas, allons-y. Oh,
d'accord. Quoi ?
Musique. Alors moi j'aurais mis l'intro plutôt.
Ah, oh, ça va.
Bon. Bon, vous venez d'entendre Carte postale d'Alabama, en l'occurrence.
Oui.
Reprise française du légendaire Sweet Home Alabama. Mais qui est son interprète ? Vous connaissiez ?
Je crois pas. Vraiment, sincèrement, je crois pas.
Parce que sur les sites où j'ai fait des recherches,
ouais.
C'est soi-disant considéré comme l'une des chansons préférées de ce chanteur
ah
pour
ouais
ses fans.
Bah ouais.
Je l'avais jamais entendu.
Bah moi non.
C'est Johnny Hallyday.
Ouais, bon, on l'a reconnu quand même. Johnny.
Ah, pas sûr.
Oui, c'est vrai.
Issu de l'album La Peur.
Ouais.
Et sorti en 1982. À noter que la chanson est adaptée en français par son pote d'enfance, un certain Eddie Mitchell.
Waouh, il ouais. Je savais pas.
Et La Peur. Cet album, donc, est le premier album de Johnny Hallyday à être diffusé en CD
wow.
et l'un des tout premiers du genre en France.
Ah ouais,
en
d'accord.
En 82.
Ok.
Alors, je sais pas s'il a direct été sorti en CD en 82,
ouais, ouais.
mais il fait partie des tout premiers CD à être sortis en France. La Peur de Johnny Hallyday avec Carte postale d'Alabama.
Franchement, elle est cool, quoi.
Et elle est un peu engagée la chanson parce
ah
que
ouais.
je l'ai pas écoutée en entier mais j'ai vu le texte. À un moment ça parle quand même du Ku Klux Klan.
Ah mais ça c'est Eddie Mitchell ça.
Ah bon.
Aucun rapport entre.
Putain, le mec il le balance sous le bus comme on dit aux États-Unis.
Mais non mais il est engagé il dit quoi quand il a envie de dire quelque chose il le dit quoi.
Mais ça... il a pas fait la traduction des paroles. Hein. Je crois qu'il a fait que l'adaptation musicale.
Ah ok.
Je crois.
Bon d'accord. Question numéro 5 c'est encore à vous.
Le conditionnement classique, aussi appelé conditionnement répondant, conditionnement de type 1 ou conditionnement pavlovien,
okay.
est un apprentissage qui associe des stimuli neutres de l'environnement à des réactions inconditionnelles fortes de l'organisme. Nous devons cette théorie à Ivan Pavlov. Vous souvenez-vous quel animal lui a permis de faire ses recherches ? Ça vous dit rien, Pavlov ?
Ah, Pavlov, ouais.
Réflexe
mais alors,
pavlovien ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc.
Et l'animal, vous vous souvenez pas ?
Non, je m'en souviens pas.
L'histoire est très célèbre et vous allez découvrir qu'elle est beaucoup moins joyeuse qu'on nous la raconte.
Quand on fait des essais sur des animaux,
ouais.
c'est toujours moins drôle. Ouais, ouais.
C'est un chien.
Super.
Alors, l'histoire qu'on nous raconte, hein, l'histoire entre guillemets officielle simplifiée, parce que c'est vrai que l'histoire est quand même assez compliquée,
oui.
c'est que. Il avait son chien, son Kleps.
Kleps.
Au début, je voulais le nom du chien, mais il y a pas le nom du chien. Et il fait sonner une petite cloche
mm-hmm.
pour lui signifier que la nourriture arrive.
D'accord.
et il lui donne à manger. Okay. Et ensuite, le réflexe pavlovien, c'est qu'en fait, à partir
dès
du moment, au
ça,
bout d'un moment, dès qu'il entend la cloche, le chien sait qu'il va avoir à manger, oui, même s'il n'a pas à manger. Oui. Sauf que ça n'a pas commencé comme ça. À partir de 1889, le physiologiste Ivan Pavlov effectue une recherche sur la salivation des chiens pour un programme de recherche sur la digestion.
D'accord,
bon,
okay.
Pour ce faire, petit enfoiré, ah, il pratiquait une incision dans la joue d'un chien et y insérait un tuyau qui récoltait la salive produite par la glande salivaire de l'animal.
Okay.
Ensuite, il mettait de la viande en poudre dans la gueule du chien et observait l'effet. Il remarqua qu'un chien qui revenait dans le laboratoire de recherche après plusieurs fois se mettait à saliver avant même qu'on le nourrisse.
Oui.
Et cela dit, il fallait quand même ouvrir...
Voilà.
Le chien salivait à voir simplement la pièce, le plat où on mettait la nourriture, la personne qui la lui donnait ou encore sentir l'odeur de la viande. Le chien anticipe, il associe la situation présente à la situation qui va suivre.
Okay.
Voilà ce que signifie désormais maintenant ce qu'on appelle le réflexe,
oui, oui,
pavlovien. Dans sa deuxième expérience sur le sujet, il présenta de la nourriture à un autre chien. Cette fois, le si était la nourriture qui provoquait, alors est-ce que c'est le stimulus, je ne sais plus, bon, bref, mm-hmm, qui provoquait toujours la même salivation du chien, rit. Conséquemment, Pavlov commença à faire un stimuli, SN, à chaque fois qu'il se préparait à lui servir son repas. Après peu de temps, il réalisa que le chien salivait, donc rit vers RC,
okay,
dès qu'il entendait un stimuli, SN vers SC.
Okay.
Et ce, même dans un cas où il ne lui apportait pas de nourriture, ce stimulus pouvait être des sifflets, des métronomes, des fourchettes qu'il faisait résonner, ou en plus des stimulus visuels habituels. Voilà, ça c'est le
d'accord,
côté,
okay,
la
okay,
petite cloche.
Ouais, ouais, ouais.
En réalité, je pense qu'il n'a jamais utilisé de petite cloche, mais il faisait des avec le son.
D'accord.
Au départ, c'était simplement le chien qui se rappelait de l'assiette,
ouais, ouais,
de la
ouais,
personne
ouais,
qui lui appelait mm-hmm, la bouffe. Et petite info amusante, le réflexe de Pavlov a été découvert en 2007 chez la blatte,
ah,
par deux chercheurs japonais, les gars. Eh ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va essayer ça sur une blatte.
Ouais.
Leur recherche démontre au passage que le glucose, dont l'action chimique sur le cerveau n'est plus à démontrer, plaisir, association, etc., pouvait agir ailleurs que chez les mammifères.
Chez les blattes.
Chez les blattes.
Comment ils ont fait?
Alors là, c'était pas noté. Mais ils ont aussi découvert qu'un truc marchait comme ça également chez les pigeons.
Ah ouais?
Ils ont pris un pigeon, mm-hmm, ils ont pris deux mecs. Deux
okay,
mecs qui voulaient leur donner de la nourriture, mais un des deux leur mettait des coups de pied.
Ah bah d'accord.
Et au bout de quelques temps, ils ont changé les vêtements du mec et ils ont décidé que les deux donneraient à manger.
Okay.
Et bien les pigeons se méfiaient toujours du gars
du mec
qui et en même temps ils ont découvert grâce à ça que les pigeons retenaient étaient physionomistes.
Ah ouais, incroyable. Je crois que les corbeaux aussi
okay,
ils choisissent quand si on les maltraite une fois, ils vous détestent à vie.
Ok.
Voilà.
Bon, après, je ne maltraite jamais de corbeau.
Bah, merci. On va finir rapidement, il reste
pas
de temps. On va finir avec de la joie, avec,
ouais,
avec une question sur les armes.
Ah.
Voilà. Et surtout sur l'une des armes les plus connues de France, le fameux FAMAS. FAMAS qui est en fait un acronyme. Et dans cet acronyme, on y retrouve la ville dans laquelle le fameux fusil était fabriqué à ses débuts. Mais quelle
c'est
est cette ville?
Eh, ah oui, ouais.
C'est Thibaut qui m'a donné.
Ah, bah, évidemment.
Bah, oui.
Ah, oui, dès qu'il s'agit de tirer sur les gens. On l'embrasse.
Il ne fait jamais ça.
C'est vrai.
Il fait d'excellentes pâtes.
Ah mais en tout cas, c'est une ville qui est première ligne ferroviaire de France.
Eh oui, ils sont là, ils sont en place. Les Stéphanois, Saint-Étienne.
Saint-Étienne, merci pour le FAMAS.
Bah oui, le FAMAS, désigné comme fusil d'assaut au sein de l'armée française, est un fusil d'assaut français de calibre 5,56x45. Bon, ça vous le savez. Initialement fabriqué par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, d'où FAMAS. FAMAS, fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne.
Waouh.
Voilà, commandé et mis en service dans les années 70 par l'armée française. Il a depuis 2016 été remplacé par le fusil d'assaut allemand HK416. Voilà, mais on connaît bien le FAMAS, c'est quand même une arme reconnue et qu'on reconnaît tout le monde.
Alors, je ne sais pas à quoi
oui,
ça ressemble, mais le
ah
nom
bon
est connu. Oui,
ah, okay,
excusez-moi, je suis moins fan de Schwartz que vous.
Oui, bah, il n'a jamais porté de FAMAS.
Je ne sais pas, le mec était stéphanois dans Predator scène 4.
Oui.
Il a le maillot. Évidemment, c'est les verts, c'est une scène coupée de Total Recall,
c'est
celle-là.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est les vrais fans qui le savent. Merci Christophe Ajus.
Merci Charlie Weber et désolé.
Et on se retrouve.
Normalement.
Normalement,
on va voir,
la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
C'était 15 minutes, les gars.
Le quiz.
Ça suffit?
C'est le quiz.
Oui, oui. Allez, à bientôt, bisous.
Bisous.